Bonjour à tous. Aujourd'hui, 1920-1946, quand le Liban était un mandat français. Au pied de ces montagnes majestueuses qui ont fait la force de votre pays, je proclame solennellement le Grand Liban. Général Gouraud, 1er septembre 1920. D'histoire. Le 1er octobre 1918, en entrant à Damas, les soldats anglais du général Allenby mettaient fin à des siècles de domination turque en Syrie et au Liban. Sur les ruines de l'ancien empire ottoman, l'Angleterre avait promis de créer un grand royaume arabe. Mais personne ne savait que 2 ans auparavant, un accord secret entre Londres et Paris, l'accord Sykes-Picot, avait prévu le partage de toutes les anciennes possessions turques du Moyen-Orient en 2 zones d'influence. L'Irak, la Jordanie et la Palestine, passant sous la tutelle de la Grande-Bretagne, et la Syrie et le Liban sous celle de la France. Cette longue présence de la France dans ce qu'on appelait autrefois le Levant explique aujourd'hui les liens privilégiés qui l'attachent encore au Liban et son intervention dans les drames qui touchent ce pays depuis son indépendance. Pierre Mauroy à Beyrouth le 27 mai 1982, le lendemain d'un attentat contre l'ambassade de France au Liban.
Face à ces actes odieux et lâches, la France demeurera inébranlable. Elle continuera son effort en faveur du Liban. Et d'abord en maintenant sa présence, sous toutes ses formes, dans ce pays ami auquel nous rattache tant de liens. La présence à Beyrouth de notre ambassade et de l'équipe qui l'anime porte témoignage de la volonté sans faille de la France de défendre l'amitié séculaire franco-libanaise.
Gérard Coury, bonjour.
Bonjour.
C'était Pierre Mauroy en 1982 évoquant l'amitié séculaire entre la France et le Liban. Vous êtes Libanais, vous connaissez très bien l'histoire du Liban. Vous avez même écrit un livre sur la période dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le mandat, la période du mandat français au Liban. Mais c'est vrai que pour comprendre l'actualité du Liban, il faut remonter très loin dans le passé et même au-delà de ce mandat français. C'est une amitié, ce sont des liens en tout cas très particuliers qui datent même des croisades.
Il y a en effet à l'époque des croisades un imaginaire qui est fondé sur une réalité, c'est-à-dire que les chrétiens du Mont Liban à l'époque avaient apporté leur soutien à croisés et il y a même une lettre apocryphe aujourd'hui reconnue comme telle de Saint-Louis qui en fait des membres de la nation française. Mmh. Après quoi, il y aura des siècles sans grand lien particulier, si ce n'est à partir de François Ier, une relation qui va être exceptionnelle. François Ier avait compris très tôt, en s'alliant avec Soléman le Magnifique, qu'il obtenait en bénéfice secondaire de cette alliance, qui était une alliance militaire et politique, il obtenait un des accords commerciaux sous le nom des capitulations, c'est-à-dire la clause de la nation la plus favorisée, mais aussi, et c'est ce qui va fonder très largement, à partir du XVIe siècle, l'influence des Français, tout particulièrement, c'est la protection des chrétiens d'Orient et des lieux saints. Et cette relation vient conforter la première relation des croisades.
À l'époque, vous l'avez dit, où les lieux saints, et notamment le Liban aussi, sont sous l'autorité de l'Empire ottoman, justement, hein, d'où l'importance de passer par ce qu'on appelait la sublime porte pour pouvoir devenir protecteur des chrétiens. Alors, la France va le rester protectrice des chrétiens pendant longtemps. Elle va même intervenir dans la région lorsque ceux-ci seront menacés, lorsque les chrétiens maronites du Liban vont être menacés et même massacrés au milieu du 19e siècle par les Druzes. Là, il va y avoir, Napoléon III va demander une intervention de la France.
En effet, et c'est une intervention qu'il fait en son nom, mais aussi au nom du Concert européen. Donc il va envoyer seul des troupes, avec le général Beaufort d'Hautpoul qui sera à leur tête, mais étrangement, il y a aussi, en même temps que des militaires, la mission de Finissy de Renan. Et ça montre qu'à l'époque, la France était non seulement concernée par le sort des chrétiens d'Orient, mais également par un imaginaire européen des origines, des influences phéniciennes et chrétiennes de cette région du monde.
Beaucoup d'écrivains vont y voyager, seront fascinés justement par le par le Liban. Le Liban aussi, dont Napoléon III obtient un pas vers ce qui sera beaucoup plus tard l'indépendance, l'autonomie au sein de l'Empire ottoman. Le Liban devient une province à part de l'Empire ottoman.
Tout à fait, c'est une autonomie sous le nom du gouvernorat autonome ou Mutasari Fia qui intervient avec le règlement de 1861 et de 1864 qui donne à ce petit territoire de 5000 km² à peu près un conseil représentatif comme un petit parlement, une gendarmerie, c'est un petit état d'opérette mais qui est peut-être le premier état démocratique entre guillemets de la région avant même les règlements de 1920.
Un état où la France a beaucoup d'intérêts, elle les développe d'ailleurs, c'est elle qui est à l'origine de l'équipement du port de Beyrouth, de la construction du chemin de fer qui relie Beyrouth à Damas, bref.
Des routes aussi.
Et
ça, c'est les intérêts français dans l'Empire ottoman en général. Les systèmes financiers et économiques de la France au Levant étaient considérables. Et c'est non seulement au Liban, sur la côte, mais aussi dans l'ensemble de l'Empire ottoman. Ça commence à être concurrencé par les Allemands à la fin du 19e et c'est la concurrence entre la Bagdad-Ban et les systèmes français de chemin de fer.
En tout cas, des intérêts que la France entend bien préserver dans la région lorsqu'en 1918, les Arabes, commandés par Lawrence d'Arabie et les troupes anglaises du général Allenby pénètrent dans Damas et libèrent les Syriens et les Libanais de plusieurs siècles de domination turque.
La ville entière est pavoisée de drapeaux arabes. Lawrence a installé son quartier général à l'hôtel de ville.
Le commandant Lawrence a certainement des choses intéressantes à vous dire à propos de mon peuple, de sa faiblesse et de la nécessité de maintenir cette faiblesse dans l'intérêt de l'Angleterre. Et de la France aussi, bien entendu. N'oublions pas la France dans cette affaire.
Vous n'avez vraiment pas entendu parler du traité Pico-Sykes ?
Non. Eh bien voilà, Monsieur Sykes est un haut fonctionnaire anglais, Monsieur Picot est un haut fonctionnaire français. Monsieur Sykes et Monsieur Picot se sont entendus entre eux pour qu'après la guerre, la France et l'Angleterre se partagent les restes de l'Empire turc. Ils ont donc signé un accord, pas un traité mon général, un accord à cet effet.
Alors l'accord Sykes-Picot, qui a été signé en 1916, en fait, tout le monde a oublié complètement ce que c'était, mais alors il a eu des conséquences considérables pour toute la région, hein, mais en particulier pour le Liban et pour la Syrie, Gérard Corry.
Il n'a pas été signé par Sykes et Picot, mais par Cambon et Sir Edward Grey, peu importe. Mais son importance, c'est qu'il prévoyait un État arabe indépendant ou une confédération d'États arabes indépendants pour entraîner les Arabes contre les Turcs dans la guerre. Et c'est dans l'imaginaire arabe la trahison de cette accord qui avait été fait entre ces deux hommes cités par Lawrence dans l'extrait du film qui va rester marqué dans l'imaginaire et surtout la bataille qui va marquer la fin de ce royaume arabe de Damas en 1920 au mois de juillet.
Alors justement, rappelons-le, en gros, en substance, les Anglais, pour faire entrer les Arabes dans la guerre contre les Turcs, avaient promis un grand royaume arabe. Or voilà ce qui se passe, c'est une division de la région en deux grandes zones d'influence, la Jordanie, la Palestine et l'Irak passant sous contrôle de l'Angleterre, et puis au nord, la Syrie et le Liban sous celle de la France, et ça va devenir de mandat. Je crois qu'il y a un homme qui a joué un grand rôle. Il y a eu Clémenceau qui était le chef du gouvernement français en 1920. Il y a eu également le général Gouraud. Il y a aussi un homme dont vous venez de rappeler les écrits politiques qui a beaucoup compté, même si son nom ne nous dit pas grand-chose aujourd'hui, mais dites-nous-en un peu plus, Gérard Coury, c'est Robert Dequay.
Robert Dequay était membre du Parti colonial français et il avait été chargé par Clémenceau de faire la première négociation avec l'émir Faisal. Clémenceau, lui, avait compris parfaitement que pour préserver l'influence française et la pérennité de l'influence française, il fallait s'appuyer sur la parole tenue, donner aux Arabes un État indépendant, mais en même temps en faisant accepter aux Arabes, représentés par l'émir Faisal, fils du shérif Hussein de la Mecque, en lui faisant accepter un Liban indépendant et souverain pour maintenir cette relation séculaire et multiséculaire de la France avec les chrétiens d'Orient. Eh bien, Clémenceau avait réussi, dans un accord Faisal-Clémenceau du 6 janvier 20, à harmoniser ces deux politiques, c'est-à-dire en même temps l'État arabe indépendant à Damas, sous la forme du Royaume arabe indépendant, et l'État du Grand Liban. Malheureusement, Clémenceau quittant le pouvoir et n'étant pas élu président de la République, c'est Robert Dequay, qui est l'éminence grise de toute cette histoire, qui va complètement modifier la politique de Clémenceau en inversant les règles de l'équilibre, en utilisant non plus la majorité et les promesses faites à cette majorité, arabe, mais les musulmane. Minorités, exactement, arabes et musulmanes, mais les minorités. Et il va appuyer sa division de la région sur les systèmes minoritaires ou les autonomies locales. Et donc, au lieu de faire un État du Grand Liban raisonnable, tel qu'il avait été expliqué au shérif Hussein de la Mecque en 1917, car tout ça, il y a eu des choses beaucoup plus compliquées que les accords, mais dans lesquelles nous n'allons pas rentrer, et au lieu de faire une Syrie indépendante et unie, il va faire 4 États en Syrie. Le Jebel Druze en 22, mais en 1920...
Ne compliquons pas les choses, parce qu'elles sont D'accord. déjà assez compliquées dans la région.
D'accord.
En substance, qu'est-ce qui se passe? La Syrie et le Liban vont devenir deux mandats. Alors, il faut préciser ce que c'est qu'un mandat. Hein, c'est pas une colonie, c'est pas tout à fait un protectorat, c'est très particulier. Donc, ce système du mandat français sur la Syrie et le Liban, Gérard Coury,
c'était quoi? On a estimé, à cause de la politique du président Wilson, qu'il fallait non plus avoir des colonies, ni des protectorats, mais avoir un système où un État jugé mineur serait conduit à l'indépendance par une grande puissance l'aidant à y parvenir. Donc c'est ce système des mandats qui a été mis en place par la Société des Nations créée en 1920 et qui va être celui de la France et de la Grande-Bretagne dans la région.
À charge pour eux de conduire ces pays, ce qui
arrivera
plus tard, à l'indépendance. Alors il y en a un qui est pas content du tout de pays ou de peuple, c'est les Syriens. Parce que ça aussi, ça nous explique l'actualité. Les Syriens à l'époque n'imaginaient pas que le Liban soit séparé d'eux. Ce que va faire la France, vous l'avez rappelé, c'est créer un grand Liban, proclamé en 1920 par Gouraud, on l'a entendu, et puis séparé de la Syrie. Pour la Syrie, le Liban, c'est la Syrie aussi. Et ça explique beaucoup les ambitions aujourd'hui.
Non, ça c'est postérieur, c'est la théorie du Parti Populaire Syrien. À l'époque, ce que les Syriens voulaient, c'était un État indépendant syrien, en fonction des promesses faites durant la guerre. Oui. Et le Liban devait être harmonisé avec cela, mais pas dans la taille qu'il a eue. On a exagérément agrandi le Liban, au-delà des promesses faites aux Libanais, du Mont Liban, et on a donné toute la façade côtière. Ce qui fait que les Syriens ont estimé qu'ils étaient, ils ont estimé qu'ils étaient défavorisés dans ce partage. Et donc, il y a un contentieux qui s'établit sur ces déséquilibres. Voilà. C'est ça le problème. Et pas simplement.
Non, mais la volonté pour la Syrie aujourd'hui de s'agrandir aux dépens du Liban, elle est ancienne, celle-là.
Elle est ancienne puisqu'ils estiment qu'en 1920, il y a un déséquilibre entre la Syrie qui a été saucissonnée en plusieurs États, ce que j'essayais de dire, et le Liban exagérément agrandi. Au fond, c'est un cadeau empoisonné pour les deux pays depuis 1920.
Et deux pays qui fascinent, qui ont fasciné dans l'entre-deux-guerres, les écrivains, mais aussi les explorateurs français.
4 avril 1931, une réunion de savants, d'ingénieurs, d'artistes ira de Beyrouth à Pékin. Ce sera l'expédition Citroën Centrasie, troisième mission Arc-Audouin-Dubreuil, la croisière jaune. Montée sur les tours du château des Crates, construit au temps des croisades par Godefroy de Bouillon, les Syriens s'émerveillaient de voir partir vers l'inconnu de modernes pieds encore venus de France. Le dernier salut de la patrie.
Le dernier salut de la patrie à cette fameuse expédition, la croisière jaune.
Oui.
La patrie, c'était la Syrie. Enfin bon, cela dit, ni la Syrie ni le Liban n'ont jamais fait partie de l'Empire français, Gérard Coury. Ce sont, on a dit, des mandats.
Des mandats. C'est, en effet, dans l'exposition de 31, ils sont quand même représentés. L'exposition coloniale, il y a des pavillons de Syrie et du Liban. Donc, ils font partie du blason colonial français, mais avec un régime spécial comparé au protectorat et aux colonies traditionnelles.
Est-ce que, avec que la mission qui était celle de la France de mener ces deux pays à l'indépendance concrète, il n'y avait pas l'arrière-pensée, au contraire, de les amener vers l'Empire, c'est-à-dire d'en faire de véritables colonies.
Je ne crois pas. Je crois qu'il y avait des intérêts qu'il fallait préserver. On a oublié de parler essentiellement du pétrole, avec aussi une explication de l'agrandissement côtier du Liban, puisque le débouché du pétrole de Mossoul était à Tripoli. Donc, déjà dans les années 30, en perspective de la montée des périls et plutôt à la fin des années 30, il va y avoir un refus de restituer quoi que ce soit à la Syrie du Liban, puisque c'est également le territoire que la France contrôle le mieux et qui n'est pas l'objet de la révolte, par exemple, syrienne et druze de 1925-26. Le Liban est quelque chose que la France a bien en main. Et donc, les villes côtières sont nécessaires pour les approvisionnements pétroliers.
Alors, comment fonctionnaient justement ces mandats? Il y avait évidemment un représentant de la France,
un
haut commissaire.
Voilà, un haut commissaire avec tout un bureau du haut commissaire, un secrétaire général. D'ailleurs, Robert Dequay, dont j'ai réuni des papiers et publié des extraits de ses œuvres, était le secrétaire général de Gouraud. Et après ça, il y a eu huit autres hauts commissaires jusqu'au général Dins et Jean Helleux à l'époque de la fin du mandat.
Alors, haut commissaire, avec beaucoup de fonctionnaires français, une importante colonie, entre guillemets, venue de France, bien entendu, qui est venue s'installer à Beyrouth ou à Damas. Et puis alors, aussi, à partir, je crois, de 1925, un gouvernement libanais.
Oui, avec à partir du premier président de la République, la Constitution de 26, il va y avoir une série de présidents de la République en même temps qu'il y avait un haut commissaire. Donc, si vous voulez, il y a un régime mixte qui se met en place. Cette fameuse Constitution de 26 ayant consolidé au fond les équilibres sociologiques du Liban, c'est-à-dire le système confessionnel qui sera repris ultérieurement.
Alors voilà, ça c'est une des choses les plus importantes qu'il faut retenir pour voir quelle a été la conséquence de ce mandat français. C'est effectivement en 1926, sous l'égide de la France, que se met en place cette constitution qui prévoit un gouvernement, un parlement et un partage du pouvoir entre les différentes, il y en a 17, c'est quand même pas rien, communautés du pays, et ce fameux article 95 de la constitution de 1926 qui dit « Les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère ». Or, c'est un système qui n'a jamais varié depuis, même après l'indépendance du Liban, c'est-à-dire un système communautariste.
Tout à fait, et qui a été donc repris dans la Constitution de 43 et qui est également la base des accords de Taif, c'est-à-dire on n'a jamais voulu prendre le risque de remettre en cause un système de pouvoir des communautés et des chefs de famille qui sont les représentants des communautés. Et ceci est quand même une des failles et une des faiblesses de cette démocratie confessionnelle.
Il faut rappeler donc un président qui est obligatoirement chrétien.
Maronite.
Parce qu'il y a des chrétiens qui sont
pas maronites. Il y a des chrétiens orthodoxes, il y a des chrétiens de différentes obédiences.
Mais pour les trois principales confessions, il y a aussi donc un premier ministre qui sera
sunnite,
musulman sunnite, et un chef, c'est encore vrai aujourd'hui.
Un président de la chambre qui est musulman chiite.
Alors tout ça, évidemment, c'est assez complexe, ça explique beaucoup de difficultés du Liban d'aujourd'hui. Et alors, un Liban qui, à l'époque, où coexistaient, nous l'avons dit, 17 communautés religieuses, et où apparaissent aussi, où vivent, parce que ce système, il ne se fait pas au profit simplement de communautés religieuses, mais aussi de quelques grandes familles qui détiennent le pouvoir, Gérard Coury.
Il y a des familles qui sont quand même aujourd'hui encore des représentants d'un monde endogamique et disons féodal. Il y a une féodalité des communautés, mais qui correspond encore aux équilibres du Moyen-Orient. Ça, il faut bien savoir qu'il y a des codes différents de fonctionnement et qu'on peut pas d'un tournement changer les mentalités et changer les fonctionnements. Il faudrait une évolution économique que les Libans avaient amorcée pour que ces systèmes s'ouvrent à la modernité et à l'esprit critique, ce qui n'est pas le cas quand ils sont en crise et en guerre.
Alors, famille, dont on faut rappeler le nom, les Gemayel, Pierre Gemayel, qui, dans les années 30, crée déjà les premières phalanges.
Tout à fait.
Il y a les Eddé, les Frangiers, les Coury.
Votre
famille, parmi les chrétiens, mais aussi les Karamé pour les sunnites, les Jumblat pour les druzes.
Le cher Mohamed Gisque, notamment.
Donc, ce sont des grandes familles, des partis politiques. Il y en a un que vous avez cité, très important, créé en 1932, c'est le Parti Populaire Syrien, c'est ça.
Ça, c'est Antoine Saadé, Mohammadet qui voulait réunir dans un concept de grande Syrie, non seulement la Syrie actuelle et le Liban, mais l'Irak, le Koweït et également la Palestine avec comme point d'étoile Chypre. Et c'est cet homme qui a été sommairement exécuté au Liban en 49 après un procès sommaire.
Donc un parti pro-syrien, on dirait aujourd'hui.
Un parti pro-syrien avec quand même des relents assez grands de national-socialisme. Même s'il était laïque, il y avait des aspects qui avaient inspiré, comme d'ailleurs Pierre Gemayel, qu'ils avaient été cherchés dans l'Allemagne nazie.
Oui. Alors un Liban toujours pas indépendant, déjà très divisé, on l'a dit, et qui va l'être encore plus lorsque se déclenche la guerre. Parce que là, en 1939-40, le Liban devient un enjeu pour les puissances qui vont se faire la guerre, et notamment entre l'Angleterre et l'Allemagne. Gérard Coury, il se passe la chose suivante. Le gouvernement français, car le général Dens, qui est haut commissaire, est resté fidèle à Vichy. Il va donner, en quelque sorte, sur ordre de Vichy, il va donner des bases aériennes en Syrie aux Allemands.
Tout à fait. Et ça va provoquer d'ailleurs une réaction vigoureuse de la part des forces anglaises et françaises du général de Gaulle. Il va y avoir justement une guerre qui jusqu'à présent reste très douloureuse pour les Français, une guerre fratricide entre Français de Vichy et Français gaullistes. Mmh. Et ça va se terminer par un accord à Saint-Jean d'Arc et une modification des données au Liban avec une visite du général de Gaulle en 42 d'ailleurs pour sceller tout ça. Et ça va être le prélude de l'acte suivant qui va être l'indépendance du Liban en 43.
Alors on écoute justement le général Dens, il vient d'être battu par les Anglais et par les forces françaises libres. Vous avez raison de le dire, Gérard Coury, c'est un combat fratricide puisqu'il y avait d'un côté les Français libres et de l'autre côté les Français vichistes. Le général Dens en août 1941, juste après la signature de son armistice de Saint-Jean d'Acre.
Coloniaux, mes amis, je vous ai rencontrés sur tous les rivages de la Méditerranée et finalement, j'ai eu le grand honneur de vous compter parmi nos meilleures troupes de Syrie. L'un des plus glorieux de vos gouverneurs généraux m'a dit qu'un frisson de fierté avait parcouru vos rangs à la nouvelle des exploits de vos camarades de Syrie. Ils se sont battus pour l'unité de l'Empire et seuls ces hommes qui, dans les plaines torrides de Damas, dans l'été du désert syrien, dans les rochers du Liban, arrêté cependant 35 jours des assaillants qui avaient annoncé leur triomphe en 2 jours. Le salut de la France ne doit pas être cherché dans l'indiscipline de l'orgueil, mais dans la ferme volonté de maintenir l'Empire, de penser uniquement français et de faire confiance dans le patriotisme lucide et averti de notre chef, le maréchal, aux ordres de qui ils ont donné simplement l'exemple de l'obéissance.
Et le général Dens, ce dernier ou avant-dernier haut commissaire français au Liban en août 41, il rentrera en France, il va finir à Fresnes, hein, parce qu'il était vraiment très pétainiste, on l'a vu. Et alors, il est remplacé par le général Catroux, comme représentant en tout cas du général de Gaulle. Catroux, qui est envoyé au Liban, une fois Dens battu, il est envoyé au Liban, qui passe dans le camp allié, et Catroux qui va proclamer ce qu'on attend enfin, parce que la France était destinée à y aboutir, l'indépendance du Liban, Gérard Coury.
C'est encore un coup de la rivalité franco-anglaise dans la région, aussi bien en 1920 qu'en 43. Catroux intervient pour corriger et compenser les erreurs faites par le dernier haut-commissaire Jean Helleux, qui a succédé à Dens. Et il va rattraper au mieux possible les coups bas que, d'une part, général Spix avait fait à l'égard de la France, et d'autre part, les erreurs d'emprisonnement du président et de ses ministres par le haut-commissaire Helleux.
Vous voulez dire que les Anglais voulaient en fait évincer la France, la présence française du Liban?
Absolument, à ce moment-là, plus que jamais. Mmh. Et donc, Catroux va réussir avec de Gaulle à Alger qui freine, parce que lui aussi veut maintenir les atouts de l'Empire, et Catroux le convainc avec une grande science. Catroux était quelqu'un de remarquable pour ce qui est du Moyen-Orient et ailleurs d'ailleurs, et Catroux va être capable de convaincre de Gaulle de donner l'indépendance au Liban, qui va devenir effective en 46 après le départ des troupes. Et il va sauver, quelque part, l'influence française, contrairement à ce que les Anglais auraient voulu.
Alors, des indépendances, moi, je vous avouerai franchement qu'en lisant l'histoire du Liban, j'ai eu du mal à comprendre, il y en a plusieurs. Il y a celle que proclame Catroux, il y a l'indépendance effective en 46, il y en a une aussi qui a été proclamée en 43, c'est d'ailleurs le jour, je crois, de la fête nationale au Liban.
Le 22 novembre 43.
Alors pourquoi une autre indépendance, puisque Catroux l'avait déjà proclamée?
C'est pas une autre indépendance, c'est la concrétisation de l'indépendance par le départ des troupes et par des accords qui vont se faire entre la France la jeune République libanaise indépendante.
Et cela va se faire dans le cadre de l'ONU en 1946.
Après avoir entendu les déclarations des représentants du Liban, de la Syrie, de la France et du Royaume-Uni, le Conseil de sécurité, considérant que la présence des troupes britanniques et françaises sur les territoires du Liban et de la Syrie est incompatible avec le principe proclamé par la Charte de l'égale souveraineté de tous les membres de l'organisation, recommande l'évacuation immédiate et simultanée de toutes les troupes britanniques et françaises se trouvant encore sur les territoires précités.
Vous savez bien entendu ce que l'on entend, Gérard Coury.
C'est une version de l'hymne national libanais.
Oui. Et le Liban, véritablement indépendant en 1946, année du départ des troupes françaises et anglaises. Le mandat s'est vraiment terminé. Il est indépendant. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette présence française au Liban pendant plus de 20 ans?
Alors, je voudrais quand même préciser que il n'y a pas que les aspects négatifs du confessionnalisme. Nous reviendrons à ce qui reste de la France. Il y a aussi ce système pluriel qui a longtemps fonctionné et qui s'est inversé avec la guerre qui n'est pas simplement libanaise, mais régionale et internationale. Il reste de l'influence française énormément d'éléments, même si l'anglais est devenu une langue plus pratiquée à cause des débouchés que donne l'anglais, le français reste non seulement une langue affective, mais aussi une langue que le Libanais pratique avec aisance, aussi bien au Liban qu'à l'étranger. C'est le plurilinguisme au Liban qui est extraordinaire. On a peu d'éléments au Liban, on a des hommes et leurs talents.
Et une présence française quand même qui demeure dans le cœur, je suppose, des Libanais, mais même physiquement, à chaque fois que, et Dieu sait si l'occasion s'est présentée, le Liban est en difficulté, la France se doit, n'est-ce pas, d'intervenir. En tout cas, c'est ce qu'elle fait systématiquement.
Alors, c'est parfois
à la demande
très bénéfique, parfois très délicat. Ce n'est pas toujours facile. Il faut espérer que les interventions les plus récentes dans un contexte très compliqué du Moyen-Orient ne seront pas plus négatives que positives. Nous sommes dans l'attente de voir si la France va pouvoir continuer à soutenir le Liban face à une politique américaine aujourd'hui qui est tentée par de nouvelles alliances pour trouver une sortie à la guerre d'Irak. Il y a un moment très fragile et très difficile aujourd'hui où on peut espérer, il faudra espérer que la France continue à soutenir un Liban, mais un Liban équilibré et non pas un Liban uniquement appuyé dans un sens et pas dans l'autre.
Quelle image les Libanais, en deux mots, se font de la France, ancienne puissance coloniale, entre guillemets?
Je pense que l'image est, en dépit de cela, restée très positive dans le cœur de beaucoup de Libanais et de toutes les confessions, même si certains ont une proportion plus critique que d'autres.
Merci Gérard Coury. Je signale que vous venez de publier Les écrits politiques et la correspondance de Robert Dequay, qui fut chargé par Clémenceau en 1920 avec le général Gouraud de régler les questions d'Orient, un livre publié sous le titre Une tutelle coloniale, le mandat français en Syrie et au Liban, qui vient de paraître aux éditions Belin. À lire aussi le très beau livre de Salas Tétier, magnifiquement illustré par les photos de Caroline Rose, Liban, récemment publié aux éditions de l'Imprimerie Nationale. Vous avez pu entendre des extraits de deux films, Laurence d'Arabie de David Lean, disponible en DVD chez Columbia, et La Croisière Jaune d'André Sauvage et Léon Poirier. Et maintenant, la suite de notre jeu concours pour jouer et gagner le livre éphéméris, la chronique au jour le jour de 1000 ans d'histoire, accompagné d'un CD-ROM et édité par France Inter et les éditions de l'Archipel. Il faut répondre à la question du jour, et puisque nous sommes le 28 novembre, eh bien, le 28 novembre 1954, une condamnation à mort est restée célèbre en France. Il s'agissait de celle de réponse 1, Buffet et Bontemps, réponse 2, Patrick Henry, réponse 3, Gaston Dominici. Je répète, qui a été condamné à mort le 28 novembre 54, Buffet et Bontemps, Patrick Henry ou Gaston Dominici? Pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Aurélie Fortin, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis. Une réalisation de Anne Comilac.